La géographie, c'est l'histoire dans l'espace, et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Les richesses
des Landes en Bretagne.
J'ai pu comprendre que c'était la pauvreté du sol qui était l'élément caractéristique qui permettait de comprendre le fonctionnement de cet écosystème. Et notamment, cette pauvreté correspond à la vie de la faune et de la flore qui s'est adaptée à ces exigences, puisque ce sont des contraintes. C'est un milieu qui, compte tenu de sa pauvreté, permet la production d'une eau d'une extrême qualité. Mais cet écosystème stocke beaucoup de carbone. Et ce stockage du carbone est un attribut intéressant dans le cadre de la lutte contre l'effet de serre, notamment.
On entendait un écologue, Bernard Clément, mais on va parler d'histoire aussi, nous, et peut-être d'histoire politique immédiate, parfois étrange. Coïncidence, le projet d'aéroport du Grand Ouest était situé sur une commune nommée Notre-Dame-des-Landes. C'était historiquement une terre de confins, à la limite du duché de Bretagne. Et au début du 19e, le territoire en était occupé par une vaste lande. Une lande à ses ressources pour qui sait les employer et les réemployer. Mais il y avait à l'époque seulement quelques fermes, 6 à l'emplacement du bourg actuel de Notre-Dame. Et ces quelques fermes suffisaient à exploiter la lande, d'autant qu'une bonne partie de celle-ci servait à tous. À la fin du XVIIIe siècle est apparu le mot « agronomie ». L'agronomie jette par-dessus bord les vieux usages des terres pauvres, jugées arriérées. C'est l'époque de la Révolution, dont les hommes ne conçoivent de propriété que privée ou nationale, certainement pas commune. En 1850, une loi de la Deuxième République finit par rendre quasi obligatoire le démembrement des biens communs, qui s'était d'ailleurs déjà fait à Notre-Dame-des-Landes quelques années auparavant. On a construit, dans l'ancienne lande, une église, le bourg. Étrange coïncidence, c'est là qu'après cette première modernisation à marche forcée, on est imaginé une autre, un siècle plus tard. Cette terre, déjà métamorphosée une fois, est appelée à devenir un aéroport qui rapprocherait deux grandes villes, Rennes et Nantes, jusqu'à les faire advenir au rang de métropole commune. Dans l'échec final du projet, on pourrait presque lire une revanche de la lande. En Bretagne, elle a perdu 98% du territoire qu'elle occupait au XVIIIe siècle, mais curieusement, là où elle s'étendait, elle survit secrètement dans certains comportements politiques locaux. Des usages communautaires des Landes, ne demeure-t-il pas une certaine attitude réfractaire ?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
François de Beaulieu, bonjour.
Bonjour.
Alors, il vous arrive de prendre parti sur la question de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir ?
Hier soir, j'étais dans un débat sur la chaîne parlementaire.
Sur ce sujet. Mais vous allez parler au titre d'historien des Landes, mais vous avez beaucoup de compétences. Vous avez fait de l'ethnologie, et puis vous êtes un naturaliste autodidacte.
Oui, parce que j'ai eu la chance dans les Landes de rencontrer beaucoup d'experts, comme Bernard Clément qu'on entendait tout à l'heure.
Et puis vous êtes aussi un militant associatif, les eaux et les rivières de Bretagne, ça vous connaît. Et vous êtes l'organisateur à l'écomusée de Rennes. C'est où ça? C'est au bout d'une ligne de métro, vous m'avez dit?
Oui, c'est juste de l'autre côté de la Cadoie, l'écomusée du pays de Rennes.
Et c'est une ancienne ferme au bout d'une ligne de
c'est
métro?
C'est une grande ferme, typiquement du pays de Rennes, où il y a en ce moment une grande exposition, justement, sur les Landes de Bretagne, voilà. Dont je suis le commissaire scientifique.
Et cette exposition est accompagnée d'un livre chez Locus Solus, très complet, et c'est d'ailleurs le deuxième grand livre. Le premier que vous avez publié, c'était chez Skol Vraise, que vous consacrez à ce thème. Notre-Dame-des-Landes, encore un mot, puis après, on va plonger plus en avant dans l'histoire.
C'est typique de cette histoire où, pendant longtemps, les hommes utilisent les Landes sous forme de commun. Ils n'en sont pas forcément propriétaires, mais ils ont des droits d'usage. Et puis, arrive cette idéologie de la propriété individuelle qui est le seul moyen de faire le progrès. Et puis voilà qu'on est revenu par un étrange coup du sort à un nouvel espace commun qu'un propriétaire, à l'heure actuelle l'État, et qui justement a suscité, parce que c'était un bien commun d'une richesse extraordinaire, si on le prend simplement du point de vue naturaliste, mais depuis, il y a bien d'autres richesses humaines qui se sont greffées dessus, et c'est pour ça qu'il y a non pas 300 zadistes fous qui le défendent, mais des dizaines de milliers de personnes avec les occupants qui ont pris conscience de cet intérêt de ce commun.
Mais alors, on entend dire il faut défendre une zone humide. Il y a des landes humides, il y a des landes sèches.
Il y a plusieurs types de landes. Pour simplifier, on peut distinguer les landes sèches, les landes moyennement humides et les landes humides.
Et alors, vous citez Julien Gracq. On ne voit que des feutrages de bruyères sèches, des gaulinins de châtaigniers, des fougères sur les pentes ombrées, et à l'époque de la floraison, les deux nuances de jaune, du genêt safrané et de l'ajon, couleur de guêpe. Oui, parce que il y a le genêt et l'ajon, mais c'est beaucoup plus riche que ça. Il y a des bruyères qui ressemblent à des bruyères et qui ne sont pas des bruyères.
En fait, il y a beaucoup de plantes, et Julien Gracq était un excellent géographe, mais pas un naturaliste. Et disons que il faut des bruyères pour faire de la lande au sens botanique du terme. Et après, on a d'autres plantes, des ajoncs, des calunes, ces fausses bruyères, si on veut, et beaucoup d'autres plantes, un milieu qui est exceptionnel aujourd'hui parce que c'est le seul milieu qui ne subit aucun traitement pratiquement avec la forêt.
Et attendez, vous n'allez pas nous faire croire que c'est un paysage naturel. Il faut la main de l'homme pour faire des landes.
Les landes ont été créées par l'homme, sauf au bord de la mer où elles sont façonnées par les éléments, mais toutes les autres landes sont nées de défrichements forestiers, on peut dire, et d'appauvrissement de ce sol forestier sur un sous-sol qui était pauvre déjà par essence, qui a fait que les seules plantes capables de tenir là, c'était effectivement des plantes très adaptées comme l'ajonc et les bruyères.
Alors on va parler histoire de la propriété, si vous le voulez bien. Dans l'expo du musée, de l'écomusée du pays de Rennes, sont présentées des lectures. Des lectures de contes, parce que vous êtes ethnologue et vous intéressez au patrimoine des contes. Celui-ci a été collecté par François-Marie Luzel, c'était au 19e siècle, dans la troisième moitié, on va dire, du 19e siècle.
Un soir d'hiver, par un beau clair de lune, un seigneur, en revenant un peu plus tard que d'habitude de la chasse, rencontra un de ses voisins, assez mal famé, qui portait sur son dos plusieurs fagots d'ajonc sec. Il aborda et lui dit « Tu as pris cet ajonc dans ma lande ?»« Faites excuse, monseigneur, répondit le paysan, cet ajonc ne vous appartient pas. »« Jure le don par la lune que voilà !» Et il lui montra du doigt la lune au haut du ciel. « Que la lune m'engloutisse si j'ai pris cet ajonc sur vos terres !» Et comme il mentait et qu'il avait volé l'ajonc sur les terres du seigneur, la lune l'engloutit. Et il y est, depuis, condamné à porter éternellement son fagot d'ajonc et à servir de leçon aux enfants à qui leur père montre à l'air l'âme en leur contant son histoire.
Alors ce conte collecté dans le troisième quart du 19e fait référence à la situation d'avant la Révolution. Il y avait donc des propriétés seigneuriales sur les landes. C'était possible.
Nulle terre sans seigneur, disait-on. C'est-à-dire, soit les terres appartenaient aux aristocrates, soit à l'Église, soit au roi. Mais, après, il y avait des usages qui étaient aux riverains, avec des variantes, et effectivement, une terre pouvait appartenir à un seigneur qui s'était réservé tous les usages, et en particulier ceux de l'ajonc, parce que l'ajonc, on peut le couper dans une lande naturel entre guillemets, mais on semait l'ajonc, justement, parce que c'était une plante cultivée qui servait à nourrir les chevaux une fois broyée. Et donc c'est probablement de cet ajonc servant de nourriture qu'on reprochait à l'homme, dont on reprochait le vol à cet homme. Mais il fallait avoir vu des hommes porter des fagots d'ajonc sur le dos, d'énormes fagots, pour pouvoir reconnaître dans les taches de la lune cet homme-là, et il faut passer à l'exposition du musée de Rennes où on a bien tracé le dessin de cette homme dans la Lune.
Mais ces communs étaient considérés comme provoquant l'arriération par les agronomes, par les modernisateurs du XVIIIe siècle de l'agriculture.
Pour justifier le partage des terres, la vente des landes, eh bien, il fallait stigmatiser ces paysans, dire que c'était des paresseux, des ignorants, et qu'avec eux, on ne pouvait avoir que de la misère. Quand on va regarder de près comment fonctionnait cette société, quel était ce système, on s'aperçoit que, simplement, ça correspondait pas aux normes que voulaient les agronomes. C'était une société, je pense, non productiviste.
Mais déjà, la bascule, elle se fait pendant la Révolution française au nom des principes juridiques qui sont ceux des hommes de la Révolution française qui ne conçoivent pas de propriété communale. Ou c'est les biens nationaux, les biens de l'État, ou c'est de la propriété privée. Les biens nationaux confisqués aux émigrés et aux congrégations religieuses doivent être démembrés et vendus comme propriété privée.
Ça, c'est la volonté générale. Mais on adapte la loi pour la Bretagne et ce sont les communes et les villages qui deviennent propriétaires des communs qui avant appartenaient donc au seigneur, à l'église et au roi, et qui les gardent en l'état, parce que c'est la volonté de tous les riverains que de continuer à en user de manière collective.
Donc il y a un prolongement particulier en Bretagne.
En Bretagne, mais ensuite c'est sous la pression des préfets, puis de la loi de 1850, qu'on impose le partage. Les préfets disent « Ah, vous voulez une école, vous voulez réparer la route, ben vendez donc la lande communale si vous voulez de l'argent ».
Et cette loi de 1850, elle est prise par la Deuxième République, enfin par la majorité conservatrice qui a fini par l'emporter pendant la Deuxième République. Dans l'exposition de l'éco-musée du Pays de Rennes au bout de la ligne de métro, etc., une séquence de Jean Kergrist. Alors, Jean Kergrist, un auteur et comédien, enfin une figure du théâtre breton qui imagine justement la venue d'un préfet dans un village supposé arriéré.
Madame, mesdemoiselles, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du soir du 6 octobre 1852, une visite du préfet d'Ille-et-Vilaine au grand comice agricole de Saint-Just. Reportage. Monsieur le recteur, monsieur le maire, Monsieur le Président du Comice agricole, mesdames et messieurs, ce fut un grand plaisir pour votre préfet de parcourir ce matin les rues et places de votre bourgade. Vos communes sont dans la misère à côté de ressources abondantes. Elles ont pourtant dans ces vagues déserts de landes qui les entourent, de quoi créer de grandes ressources dès lors qu'une vente livrerait ces landes à l'action des plus industrieux et les soustrairait à la routine, à l'incurie, à la paresse. Pour rendre une terre fertile, il faut d'abord lui donner un propriétaire.
Mais on est déjà propriétaire de ces landes, préfet. Mais on est tous ensemble. Ça s'appelle des communs. C'est sans doute ça qui gêne, préfet. Comme nos pères et les aïeux et les aïeux de nos aïeux avions toujours usé des landes avec justice et mesure. Chacun y a mis ses vaches et son cheval à pâturer. Chacun y a coupé la litière pour faire ses fumiers. Chacun y a écobué son coin de lopin avec l'aide des autres. Chacun y a coupé la joue à piler pour ses chevaux. Préfet, manquez plus que ça.
Ce paysan qui surgit d'un buisson pour interpeller le préfet évoque l'écobuage.
L'écobuage, c'était un autre usage des landes où on pouvait faire des cultures tous les 25-30 ans, une fois par génération, sur une partie des landes où on arrachait les mottes de sol qu'on brûlait sur place, on répandait la cendre et on pouvait cultiver du seigle ou d'autres plantes pendant 2-3 ans. Et puis la dernière année, on se met son seigle, on se met de la jonc avec, et on laissait, on avait une dernière récolte, et on laissait repartir pour 30 ans de la lande.
Le préfet de 1851, pour montrer les chances que permet le démembrement de la lande commune et sa transformation en propriété privée juxtaposée, il aurait pu évoquer l'exemple de la réussite de Notre-Dame-des-Landes. Ce démembrement s'est fait dès les années 1830.
Oui, et ça a été une réussite au sens où les hommes ont fait avec la nature et pas contre. Ils ont créé un bocage, et ils ont créé un bocage en maintenant cette immense zone humide là sur près de 2000 hectares, sur deux bassins versants, qui a révélé des potentialités formidables d'un nouveau milieu tout aussi créé par l'homme que les landes elles-mêmes.
Donc c'est pour ça que Notre-Dame-des-Landes, c'est un bocage, et qu'on en parle comme d'un bocage.
Voilà, avec quelques restes de landes miraculeuses au milieu du bocage.
Ouf, on en sait plus, grâce à vous, François de Beaulieu, qui faites appel au patrimoine des contes, mais aussi au patrimoine des champs, filmé dans les années 1990 par Catherine Nedelec, ce chant des coupeurs de la lande.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Provenant de la Cinémathèque de Bretagne, ce chant à répond. Chant à répond.
C'est un chant et des chants. Bon, mais moi, ce qui me semble très important là-dedans, c'est que c'est un exemple parmi des milliers d'autres de cette culture extraordinaire que ces coupeurs de landes ont pu faire vivre parce que ils n'étaient pas des gens écrasés par le travail comme on a voulu le faire croire.
Quand on traduit, quand nous coupions de la lande dans les monts d'Arrée, nous sentions l'odeur des filles de Cornouailles. Enfin, ils avaient le temps de se rassembler pour composer des chants et les écouter.
Voilà, et ils avaient le temps de faire des contes, on en a collecté des milliers, de se raconter des légendes pour comprendre mieux le monde dans lequel ils vivaient. Et donc c'était une société profondément cultivée qui n'était pas dans la misère culturelle qu'on a voulu décrire après et qui n'était même pas dans la misère matérielle. Ils étaient pauvres, mais pas dans la misère.
Alors la collecte, vous recourez aussi dans l'exposition de l'Écomusée, et puis vous citez ça dans votre livre chez Locus Solus, François de Beaulieu, aux travaux de l'association La Liette, qui organise des cafés mémoires où les gens viennent parler de la lande de la guerre.
Voilà, on a eu une belle collection de témoignages de ces personnes qui ont, étant enfants, continué à garder les troupeaux comme ça se faisait des centaines d'années avant dans les landes. Et ces enfants...
On les appelait comment, les gardiens
de patous, troupeaux là, les patous, là, en l'occurrence les patous, avaient une vie autonome d'enfants, de découverte de la nature, de contact avec la nature sauvage, à laquelle ils tournaient le dos au moment où ils passaient dans le monde des adultes, mais qui était un moment extraordinaire pour eux.
Je sens que vous allez nous parler des libres enfants de la lande.
C'est un peu ça.
Alors, devenus vieux, ils se souviennent ici à Morteneuf, dans un café mémoire.
Monteneuf,
pardonnez-moi, c'est dans le Morbihan.
Oui.
Alors, souvent, ben, t'avais des petites
parcelles. Des petites parcelles, oui, mais partout.
Eh ben, t'en faisais une année, l'année d'après, tu faisais l'autre. Mais tous les landiers étaient nettoyés propres. Et là, tu voyais après, comme au printemps, s'il y avait des champignons, bah là...
Tu les ramassais. Ah oui.
Tu les voyais pas.
Donc c'était...
Là, il y en avait. Mais c'était nettoyé propre.
Il
passait. Et tout ça a été emmené pour faire les litières et vaches. Et puis on retrouvait ça dans le fumier, c'était du fumier.
Et puis ça retournait,
et ça retournait dans la terre.
Et ça retournait dans la terre pour faire la terre. Ouais. Voilà.
Mais les agents, ça servait à toute l'économie parce que ça servait aussi à faire la litière.
Oui, complètement.
Ouais. Mmh. Et je songe qu'ils devaient couper quand ils te tendre pour les bêtes. Mmh. Et puis quand ils te durent, ça servait à faire la litière.
Ouais, la litière
avec
ouais.
la fougère, les ronces.
Les fumiers, ça faisait du mus après.
Les fumiers, ouais. à l'automne, ça faisait du fumier. Hein.
Exactement.
Ça retournait en terre. Et
c'était un cycle naturel.
Ah, l'agent, c'est toute une science. Vous avez même fait tout un livre sur l'agent, François de Beaulieu.
Chez Scholvraise, oui.
Oui. Alors, vous nous expliquez en détail.
Alors.
En coupant tout en quatre.
L'agent avait beaucoup d'usages. Alors, soit on le semait, et dans ce cas-là, on allait ensuite, pendant l'hiver, quand il n'y avait pas grand-chose à manger, le broyer, et c'était une formidable nourriture pour les chevaux, ça a fait la réputation des chevaux bretons. On a eu les plus grosses foires aux chevaux d'Europe, à Morlaix, au début du XXe siècle. Et cette nourriture leur donnait santé, poils brillants, c'était une réussite.
Mais seulement les chevaux
on pouvait aussi en donner aux vaches, ça dépendait des quantités qu'on avait pu semer, parce que là, il fallait effectivement, sur de bonnes landes, on pouvait semer l'ajonc, on défrichait, on semait de l'ajonc.
Bon, alors alimentation du bétail.
Alimentation du bétail. Avec l'ajonc mélangé à de la bruyère dans la lande spontanée, là, on coupait pour faire de la litière. Et on avait les animaux donc dans les étables et on produisait comme ça le fumier pour les quelques parcelles cultivées. Car les fermes, les petites fermes du 19e siècle, c'était 1 à 2 hectares de terre labourable et accès à des dizaines d'hectares de landes. Et c'est ce cycle, c'était pas un retour en fait à la lande. La lande se débrouillait toute seule, on lui apportait rien. On apportait, par contre, il fallait bien du fumier pour les terres labourables et c'était la destination de la lande. Et puis, dernier usage de l'ajonc, quand même, c'est quand il était vieux, en particulier là où on l'avait semé pour les chevaux, on le coupait pour faire du feu.
Alors, vous parlez des feux de la Saint-Jean ?
Alors, les feux de la Saint-Jean et les feux de joie étaient des feux à base d'ajonc. On faisait de très belles meules. C'est pas facile de faire une meule d'ajonc qui tient.
Alors, il paraît qu'il n'y a plus qu'une meule faite dans les règles
Saint-Jean
de la...
Saint-Jean-du-Doigt, au mois de juin, pour la Saint-Jean-Baptiste.
Au nord du Finistère.
Au nord du Finistère, une magnifique meule faite par les hommes du village.
Mais alors, il faut le broyer, cette agence, qui n'est pas une mince affaire.
Alors, on avait à l'origine des auges en pierre, des maillets, et puis on tapait, et puis on tranchait avec des maillets, avec un bout tranchant. Et puis, à partir de 1850, on a commencé à avoir des hachelandes en fonte. L'industrie s'y est mise, on a facilité le travail. Et puis après, on a eu des systèmes avec un manège à cheval qui permettait de faire fonctionner ces hachelandes. Et les derniers ont été avec des moteurs électriques.
Dans les contes et dans les chansons, on imagine les pieds nus des jeunes filles qui tentent de broyer de la jonc.
Voilà, c'était punition. Le pire qui pouvait arriver.
Et alors, il y a un usage qui est quand même assez étonnant. Ça sert de corde à linge.
Alors, bien sûr, l'ajonc, c'était très bien parce que, contrairement aux ronces, par exemple, qui ont des crochets, on peut mettre du linge, et en particulier les coiffes fragiles, à sécher sur l'ajonc. Elles ne s'envolent pas, elles restent accrochées, et elles ne se déchirent pas.
Mais je voudrais qu'on revienne aux bêtes. Vous racontez l'histoire d'une femme de la lande qui ne veut pas vendre sa vache parce que sa vache ne doit pas dormir dehors. Les vaches qui allaient dans la lande ne dormaient pas dehors.
Non, en règle générale, on évitait de laisser le bétail trop longtemps dehors, il sortait, mais on préférait le garder dans la crèche pour ne pas laisser perdre le bon fumier qu'elle produisait. C'était trop précieux, le fumier.
C'est-à-dire qu'on élevait les vaches pour la bouse de vache, quoi.
Exactement.
Mais pas pour le
lait. En fait, c'était pas pour la viande, pas pour le lait, c'était pour la bouse. C'était ouais. ça l'intérêt majeur.
Alors, vous nous avez parlé des bidets, on peut appeler ainsi les chevaux, non ?
Les chevaux bretons primitifs.
Vous nous avez parlé des vaches, et il y a les moutons.
Il y a les moutons.
Alors, vous êtes un as, vous, du mouton des Landes.
Je me suis beaucoup intéressé aux moutons des Landes, aux moutons d'Ouessant, qui était le plus petit de tous, mais voilà, des petits moutons noirs, un peu de moutons blancs, et qui étaient dans toutes les familles, il y avait quelques moutons. On n'a pas des grands troupeaux, en fait, en règle générale. On a des tout petits, parce que chacun produit la laine pour faire les vêtements.
Et à l'expo de l'écomusée, il y a un mouton.
Il y a un beau
un
mouton.
Couple de moutons.
Il y a un beau mouton des Landes dans l'exposition naturalisée, mais il y en a dans la ferme à côté, bien vivants, qui ont leurs petits, qui sont en train de naître en ce moment.
Alors, on parle beaucoup, élargissons, François de Beaulieu, on parle beaucoup aujourd'hui de biens communs. Il y a un dictionnaire des biens communs qui est paru il n'y a pas très longtemps aux presses universitaires de France, dans lequel vous avez rédigé l'article Landes, j'imagine.
Rien du tout.
Il n'y a pas d'article Landes.
Malheureusement, le cas des communs de Bretagne est ignoré à l'heure actuelle, parce que les quelques historiens qui en ont parlé, c'était dans les années 20, où les géographes encore plus anciens, comme Camille Valot, on les a oubliés. Et on ne fait référence, finalement, systématiquement, qu'aux enclosures britanniques.
Alors les enclosures, c'est dès le XVIe siècle.
C'est dès le XVIe siècle.
Quand on enseignait encore Karl Marx dans l'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu de l'enseignement de l'histoire, Karl Marx datait le début du capitalisme des enclosures.
C'est très symbolique
des terres en Angleterre.
Le grand symbole, et avec ce symbole que sont les communs qui ont été présentés comme le pire moyen de valoriser les terres, alors qu'en fait, les communs assuraient la résilience de cette société agricole bretonne.
Mais alors, les communs étaient parcourus par des spécialistes, et pas seulement utilisés par les paysans. Il y avait, des salariés de la communauté. Voici un exemple, le dernier issu du matériel sonore de l'exposition de l'écomusée du Pays de Rennes.
C'était le petit Père Francis qu'on l'appelait ici. Et lui, sa profession, c'était... il avait travaillé dans les fermes un peu, mais il a fait une grande partie de sa carrière comme metteur poudland. Alors, à Éter Poudlande, son outil, c'était les trappes, tu sais, pour couper la lande. Et ça, il faisait ça pour tous les fermiers, les fermes du coin, là, ici. Hein. Un jour, il coupait pour un, ou une semaine, il coupait pour un, la semaine d'après, il coupait pour l'autre. Et lui, il connaissait tous les bois, et il en a entretenu des hectares de bois. Hein. Ah ouais, oui. Alors, en fait, c'était un peu ça, c'était sa profession. Hein. Il était payé à la javel. La javel, c'était un petit tas de landes. Hein, et là, je sais plus. Alors là, je suis incapable de te dire combien on lui donnait, mais bon. Mais il avait tant de la javel. S'il en faisait, en principe, il en faisait un cent. Hein, c'est souvent les paysans, enfin les fermiers, ils lui disaient, tiens, tu vas nous faire un cent de landes. Là, il savait ce que ça voulait dire, un cent. Alors c'était quelqu'un qui connaissait tous les oiseaux et tout la flore, la faune. Ah ouais, et puis il était attentif à tout ça. Ouais. Ah ouais.
Bon, on essaiera d'identifier ces oiseaux tout à l'heure. François Mauriac disait que c'était la différence entre les gens qui savent et qui ne savent pas. Ceux qui savent reconnaître les chants des oiseaux. Mais il y a des tas de mots qu'on n'a pas compris là. Étrepeur.
Oui, alors c'est quelqu'un qui étrepe au sens que l'on donnait en Haute-Bretagne à ce terme, c'est-à-dire qui en fait fauchait la litière. La fauchait avec une étrepe, un outil qui avait des formes très variées, et qui faisait des tas calibrés. Et il était payé au cent, c'était un ouvrier agricole payé donc au cent.
La javel,
là en l'occurrence, ça désigne ces tas de litière et coupé. Mais en fait, ailleurs, il pouvait être payé tout simplement à la surface, au journal, il n'y avait pas de...
Au journal.
Le journal, c'était...
Un jour de terre.
C'était en fait un demi-hectare qui était...
Mais attendez, payé par qui ?
Désigné comme ça. Payé par le locataire ou le propriétaire de la lande.
Alors, ces oiseaux...
Ces oiseaux, on a entendu là le courlis avec un mélange d'engoulevent, c'est-à-dire un oiseau de jour, le courlis, dont il ne reste malheureusement pour toute la Bretagne plus que 20 couples dans les monts d'Arrée.
Alors que c'est l'oiseau symbole de
c'est
la Lande.
C'est un beau symbole du printemps dans les Landes. Et puis l'engoulevent, qui est lui un oiseau nocturne et qu'on trouve dans les Landes parce que justement c'est un insectivore qui trouve des qui peut trouver sur quelques hectares de land jusqu'à 150 espèces de papillons de nuit différentes.
Alors, vos livres, je rappelle les éditeurs, parce qu'ils sont peut-être pas familiers, leur nom n'est peut-être pas familier pour tous les auditeurs, Skol Vraes et Locus Solus, parlent des busards qui viennent écouter les mots de l'épine en fleurs. Mais où ? Combien reste-t-il de landes ?
C'est tout le problème, c'est qu'on est parti de 1 million d'hectares de landes et terres vaines et vagues au moment de la Révolution, et qu'aujourd'hui, il ne reste plus de landes, à proprement parler, que 14 000 hectares pour toute la Bretagne, c'est-à-dire que si on les rassemble, elles tiennent dans un carré de 12 km de côté. Et c'est pour ça que c'est un patrimoine extrêmement précieux, parce qu'on a pu reconstruire le Parlement de Bretagne quand il a brûlé, mais on ne peut pas reconstruire une lande qu'on a détruite. Et la plus petite est précieuse.
Merci à vous, François de Beaulieu. Donc votre exposition, elle est déjà prolongée jusqu'au mois d'août, au bout d'une ligne de métro de Rennes. Parce que Rennes n'a pas d'aéroport international, mais c'est la plus petite ville du monde à avoir un métro. L'émission était préparée par Elinka Negulesco, Louise Arouin, avec à la réalisation Audrey Ripouille et Florent Beauvalet à la technique. La guerre des métaux rares, parce que les métaux rares, on peut pas les reconstituer non plus si aisément quand ils ont été trop vite exploités, cher Mathieu Vidard.
C'est ce qu'on verra dans un instant, Jean, effectivement, dans la tête au carré.
Il est 14 heures passées de quelques secondes et vous écoutez France Inter.